Donc, la question la plus importante à se poser est la suivante. Comment un commerce en ligne peut-il augmenter ses ventes, son trafic et son taux de conversion? Eh bien, qui dit question dit également réponse. À chaque mardi, vous aurez donc la chance d'entendre des experts d'un peu partout du milieu francophone. Abonnez-vous, prenez des notes et soyez attentifs. Bienvenue à tous au podcast Commerce Elite. Bienvenue à tous au nouvel épisode du podcast Commerce Elite présenté par l'agence Pure Commerce, un partenaire de croissance qui veut transformer votre commerce en ligne en commerce élite. Et aujourd'hui, lors de l'entretien, on parle du plus gros fléau pour les boutiques en ligne, les paniers abandonnés. On enchaîne par la suite avec un panel d'experts qui nous explique les choses à faire et à ne pas faire avec notre commerce en 2022. $18 milliards, c'est le volume d'argent qui est perdu par des e-commerce à cause des abandons de paniers et ça représente 70% des paniers générés lors d'une visite. Là où certains voient une perte amère, d'autres voient une opportunité d'optimiser leur entreprise. Et c'est le cas de AdRoll dans son dernier webinaire intitulé « Abandoned Carts for Shopify Merchants ». Point assez sympathique de la présentation, ils ont segmenté leur optimisation en fonction de votre niveau de marketing. On vous a fait une petite synthèse des optimisations les plus pertinentes. Pour marketeurs débutants, le premier champ de bataille, c'est votre page de paiement. AdRoll nous encourage à mettre le strict minimum dans le formulaire. C'est une optimisation qu'on connaît bien en publicité. Plus le formulaire est long, plus vous avez des chances de voir les gens abandonner. Et ça passe aussi par la possibilité de faire son achat sans créer de compte sur votre site. En anglais, le terme utilisé pour cette pratique est le « guest checkout ». Autre point intéressant, ce sont les frais de livraison. Au lieu de les appliquer à la toute fin du paiement et d'occasionner une mauvaise surprise, il est préférable d'avoir une politique de prix très transparente, voire proactive, dans le tunnel de vente. Si votre client décroche à cause du prix de livraison, autant que ce soit dès le départ. Mais si vous offrez la livraison gratuite, n'hésitez pas à mettre l'offre davantage au premier plan. Nous-mêmes en publicité, c'est une offre qu'on recommande très souvent d'appliquer pour des commerces en ligne. D'ailleurs, en parlant de publicité, c'est un passage clé pour l'abandon d'achat. Avoir une campagne publicitaire ainsi que du emailing pour recycler tous les abandons de panier sont des points clés pour votre taux de conversion. La publicité surtout car vous n'avez pas toujours l'adresse email de vos prospects. Le SMS marketing est aussi vivement conseillé, mais nous en avons déjà parlé longuement dans une précédente chronique. On parlera aussi d'utiliser des vidéos de clients et des témoignages dans votre tunnel d'achat pour rassurer votre prospect. Pourquoi ne pas même en ajouter une sur la page de paiement? Marketeur intermédiaire. À ce niveau, on est davantage sur de l'optimisation face à du contenu déjà existant. À commencer par la page de paiement, AdRoll nous conseille d'ajouter des éléments rassurants comme des informations sur la politique de retour, un chatbot pour répondre à d'éventuelles questions et même des badges de sécurité concernant le paiement. Ensuite, retour à votre séquence email qui doit se doter de plusieurs choses. Avoir un outil pour populer dans votre email des produits du panier qui ont été abandonnés. Inclure du UGC, donc du User Generated Content, sur les produits concernés. Appliquer une offre exclusive pour du remarketing. Tester des périodes d'envoi d'une heure, 24 heures ou même de 48 heures. Mais pour faire simple, on doit tester et ajouter un décompte avant que le panier ne disparaisse. C'est une optimisation que nous avions vue lors du Ecom World 2021 qui a d'ailleurs été très efficace lorsqu'on l'a testé par la suite avec des comptes clients. Et même chose pour vos campagnes de retargeting qui se doivent d'être optimisées et vos audiences segmentées. Et pour les marketeurs experts maintenant, eh bien, pour les Shopify à 6 chiffres, AdRoll vous encourage à passer à Shopify Plus, ce que vous avez déjà probablement mis en place. L'idée est d'obtenir un maximum de fonctionnalités en plus pour proposer une expérience davantage personnalisée à tous les niveaux sur votre site e-commerce. Ensuite, le conseil est surtout de tester, de faire de nombreux essais tant sur votre tunnel de vente que sur les scénarios de remarketing et également sur les éléments que vous allez afficher comme les offres et le contenu emailing. Parce que d'après eux, c'est là que vous trouverez le plus fort taux de conversion. Et ça me fait penser à un test que nous avons mis en place sur des images de produits chez une boutique en ligne. Pour certaines gammes, ce sont les images traditionnelles sur fond blanc qui fonctionnent bien. Et sur d'autres, ce sont des photos Lifestyle où l'on montre le produit en action. Vous pouvez également faire ce test et voir par la suite quels résultats sont davantage fonctionnels. Et ensuite, c'est de lancer rapidement un programme de fidélité. On le sait d'expérience, faire convertir un client satisfait est beaucoup plus simple que d'aller en chercher de nouveau. Ça vous coûte plus cher surtout et c'est davantage compliqué. C'est un projet complexe à mettre en place, celui de créer un programme de fidélité, mais les retombées sont bien souvent à la hauteur de l'investissement. Des acteurs dans le commerce en ligne, il y en a beaucoup. Il peut y avoir des prestataires de services, des propriétaires de boutiques, mais également des entreprises offrant des services connexes comme la livraison de colis. Et aujourd'hui, sur le podcast, on a la chance d'avoir trois intervenants œuvrant dans des catégories mentionnées plus haut. François-Jérôme Gosselin, président de l'agence Novatize, Vanessa Menillo, fondatrice de la marque Menillo Design, et Jordan Arshinov, cofondateur de l'entreprise Expedigo, ont fait le plaisir lors de la journée e-commerce du 8 avril dernier de m'expliquer, selon eux, les choses à faire et à ne pas faire avec sa boutique en ligne en 2022. Un entretien excessivement fascinant qui donne également des visions distinctes sur le commerce en ligne. Bonne écoute!
Donc, on est de retour pour le troisième podcast de la journée. On en a sept au total que moi j'anime et deux autres qui vont être sur l'heure du midi. Donc, on a beaucoup de plaisir, on apprend beaucoup de choses depuis le début de la journée. Pour notre troisième enregistrement du jour, on a avec nous des intervenants qui œuvrent dans des industries assez différentes, mais qui ont un point en commun, le e-commerce, le commerce en ligne. Et on va profiter de leur exposition à des environnements différents afin de déterminer les choses qui ne fonctionnent plus et les choses qui risquent de fonctionner en 2022 et 2023 avec le commerce en ligne. Et c'est d'ailleurs le titre de notre troisième panel, « Ce qu'on évite et ce qu'on intègre dans notre stratégie e-commerce en 2022 ». Et notre première panéliste, Vanessa Menillo, fondatrice de Menillo Design, une organisation spécialisée dans la confection de maillots de bain et apparel pour femmes. Vanessa, merci beaucoup d'être avec nous.
Merci à toi.
Notre deuxième panéliste, François-Jérôme Gosselin, cofondateur et président de l'agence Novatize, spécialisée en commerce électronique et également derrière le magnifique événement qui se déroule aujourd'hui. François-Jérôme, merci de prendre le temps avec nous ce matin dans une journée chargée, là.
Ça me fait plaisir. Merci à toi.
Et notre troisième invité, Jordan Arshinov, cofondateur de l'entreprise Omibox, une société québécoise qui petit à petit réinvente la livraison de colis. Jordan, merci d'être avec nous.
Ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup.
Donc, je le répète, le sujet de l'entretien, ce qu'on évite et ce qu'on intègre dans notre stratégie e-commerce en 2022. Et je vous donne un petit peu de contexte. FastCompany.com mentionnait dans un rapport récemment que d'ici 2023, 80 % des 2000 plus gros détaillants dans le monde vont offrir l'option d'acheter maintenant et de payer plus tard. Est-ce que c'est un des indispensables qu'on doit avoir dans notre stratégie en 2022? J'aimerais vous entendre un petit peu, je vous ai donné un petit peu de contexte, mais j'aimerais vous entendre maintenant de votre côté. Et je commencerai avec toi, Jordan. Qu'est-ce qui est important? Quelles sont les tendances importantes pour 2022, spécifiquement au niveau de l'expédition de colis? Parce que c'est dans le domaine que tu œuvres beaucoup présentement.
Oui, effectivement. Puis je dirais que ce qui est vraiment, vraiment important quand on a une boutique en ligne où on veut se différencier face à la compétition aujourd'hui en 2022, c'est de bien comprendre ce que nos clients veulent. Puis une expérience client, ça débute pas juste au moment de placer la commande. C'est vraiment comment on gère notre site web, Le SEO, comment on présente les produits. Faut que les gens puissent être capables d'acheter leurs produits de façon frictionless, qu'on pourrait dire. Puis après ça, ben c'est tout l'enjeu de la livraison après l'achat. Donc, pour bien compétitionner finalement dans l'industrie, il faut être capable de gérer les attentes des clients de A à Z. Fait que du moment qu'ils placent la commande jusqu'au moment que la commande se rende à la porte du client, puis il faut que le client comprenne c'est quoi l'expérience d'achat et de livraison qu'il va avoir. Les deux vont vraiment de pair.
Donc ça, c'est ce que tu as vu qui continue d'être très important en 2022. Toi, Vanessa, de ton côté, les bons coups, les gros moteurs d'acquisition dans la dernière année avec votre entreprise, est-ce que tu pourrais nous en énumérer quelques-uns?
Oui, dans le fond, si je regarde vraiment ma croissance dans la dernière année, je pense que pour moi, mon plus gros problème, c'était d'optimiser. Parce que dans le fond, mon équipe est vraiment petite. Puis pour nous, on voyait vraiment une grosse croissance. Puis pour la suivre, pour nous, c'était vraiment important d'optimiser tout le travail au lieu d'engager. Puis surtout avec toutes les applications qu'on peut avoir justement avec le e-commerce, c'est tellement intéressant parce que ça enlève d'engager quelqu'un, puis tout se fait automatiquement. Donc, la raison aussi pourquoi je m'associe avec Novatize, c'est une compagnie que j'ai trouvée qui pouvait m'aider dans mon problème. Puis, tu sais, ça implique tellement de choses, le e-commerce. C'est tellement intéressant. Tu peux tellement grossir là-dedans. Tu sais, pour nous, justement, quand tu parles de acheter maintenant, pay later, ben nous, c'est Sezzle pour nous. Dans le fond, c'est un mode de paiement que, dans le fond, tu permets au monde d'acheter, mais c'est des versements, de 4 versements avec aucun intérêt. Fait que c'est vraiment intéressant pour le client.
Bien sûr.
Puis ça incite la personne d'acheter parce que nous, dans le fond, on a des maillots haut de gamme. Fait que, tu sais, comme quelqu'un qui nous connaît pas puis qui peut pas toucher la qualité directement parce qu'il est en train de magasiner en ligne, ben c'est comme un petit coup de plus pour aller chercher la personne. Fait que c'est intéressant. Puis il y a plein d'autres applications qui sont tellement intéressantes qui aident vraiment la personne à acheter en ligne.
Dans son parcours client. Donc, ce que je mentionnais, que 80% des 2000 plus gros détaillants vont offrir l'option d'acheter maintenant et de payer plus tard. Ça, vous le faites déjà et ça fonctionne, là.
Absolument. Puis on a vraiment vu une différence. T'sais, on est capable de voir le résultat. Puis je le recommande vraiment.
François Jérôme, je me tourne vers toi. Tu es président de Novatez, mais également de quelques brands, dont Statera, Nudge et Tella Stella. Ça a été quoi les leviers les plus fonctionnels pour ces trois brands, disons dans les 6-12 derniers mois?
Oui, ben Vanessa a bien mis la table sur l'enjeu de toutes les applications qui existent, là, qu'on peut utiliser pour optimiser, mettons, des opérations et tout ça, là, justement, surtout en multi-brand, c'est comme vraiment nécessaire. Pour faire un peu le pont aussi sur le buy now, pay later que vous disiez, là, moi, j'insisterais un peu même là-dessus parce qu'on est dans un moment actuellement où il y a tellement une cash d'injecter, puis là, il y a des hausses de prix quand même assez importantes dans toutes les
secteurs. Est-ce qu'il y a de l'inflation? Est-ce que c'est ce que tu es en train de dire?
Oui, ouais, c'est ça. Je sais pas si tu as entendu parler de ça. Il y a tellement de hausses de prix partout que, tu sais, ça reste un moyen qui est intéressant de dire, je vais offrir aux consommateurs de payer en plusieurs versements.
Bien sûr.
C'est moins fâchant. C'est plus frictionless, justement, un petit peu. Fait que ça aide ça. Moi, j'orienterais ma réponse un petit peu plus vers l'intégration de tous les outils, mais entre eux même. Je donne un exemple qui est vraiment simple. Tu sais, maintenant, il y a un outil pour tout, là, que ce soit marketing automation, programme d'affiliation, des avis de produits, là, les reviews, puis tout ça. Mais là où on va vraiment chercher un gain, je dirais, c'est dans l'intégration de tout ça ensemble. Le meilleur exemple que je peux donner, maintenant, une application pour faire un programme d'affiliation, très facile d'en avoir une. Il en existe plein sur toutes les plateformes. Par contre, si tu la conjoins avec une stratégie, exemple de marketing automation, puis que tu encadres tous tes affiliés avec du contenu pour les aiguiller comment faire du meilleur contenu après ça, puis que tu mousses ton programme d'affiliation comme ça, puis que tu automatises ça sans tout le temps être obligé de pousser manuellement, c'est là où tu vas avoir des gains. Puis maintenant, toutes les solutions se parlent. Il s'agit juste de les inscrire dans une stratégie puis de focusser là-dessus.
Je pense que c'est là que vous êtes bon chez Novatez. Vous avez cette belle compréhension-là d'un paquet de stack technologique quasiment et c'est là que vous êtes capable d'aller outiller vos clients sur quelle meilleure solution à prendre pour leur optimisation de commerce en ligne, là.
Oui, c'est ça. Puis, écoute, je ne connaîtrai pas une autre réponse, mais c'est sûr que quelque chose qui est super important là-dedans aussi, c'est dans cette marée-là, c'est d'avoir le bon focus à bonne place aussi. Là. C'est fun de vouloir tirer partout, là, mais je dirais que oui, c'est de cibler les pain points, de voir c'est où qu'on peut vraiment amener une amélioration à court, moyen, puis peut-être avoir un chantier long terme aussi, puis de focusser là-dessus.
Une étape à la fois. Donc, très intéressant. Tout ça, je passe au deuxième sujet, les moins bons coûts, ou plutôt les apprentissages. C'est ça qu'on utilise quand on est un entrepreneur. Des fois, on gagne, des fois, on apprend. Je vous fais part d'une recherche d'un papier qui a été sorti sur Shopify récemment, qui montrait les plus gros échecs des 12 derniers mois sur Shopify. Je vous en parle d'un particulier qui a capté mon attention. Une boutique en ligne, un e-commerce américain qui se retrouve, plutôt le CEO se retrouve sur l'émission Good Morning America, Deals and Steals. Il arrive avec beaucoup de produits, 22 000 kilos de son produit. En 48 heures, il est capable de le vendre au complet. La vie est belle. Il a fait des ventes comme pas possible. Mais qu'est-ce qui se déroule? Il est capable de faire l'acquisition de 7 000 clients. Mais après quelques semaines de cela, aucun client ne réachète. Donc, tout le monde était venu uniquement pour avoir une promotion, pour avoir un deal, mais aucune loyauté ne s'est créée avec ces clients-là. Je fais du pouce un petit peu sur le cas que je viens de mentionner ici. Puis je commencerai peut-être avec toi, François-Jérôme. Est-ce que la rétention de clients, c'est pas un enjeu que beaucoup de propriétaires de boutiques en ligne, des fois, oublient? On pense à de l'acquisition, on pense à des gros moteurs marketing, mais ultimement, il faudrait peut-être pas penser un peu à s'assurer d'avoir une bonne récurrence avec sa clientèle?
Oui, définitivement. Ben, écoute, moi, je suis un fan de juste revenir aux basics du marketing puis de prendre un tunnel de vente standard. Là, puis, là-dedans, tu vas avoir ton acquisition, ton activation, puis tu vas avoir ta rétention, justement. Puis c'est quelque chose qui est super important parce que souvent, quand tu investis en acquisition de clientèle, en notoriété, puis tout ça, un, ça coûte cher. Tu sais pas tout le temps c'est où que ça va rapporter. Fait que tu es aussi bien d'avoir des outils de rétention en place pour être certain que ce coût d'acquisition-là, tu vas le rentabiliser dans le futur. Fait que c'est ce que tu as dit là comme problème. Là, tu sais, il y en a plein qui le vivent, puis même à des plus basses échelles. Là, tu sais, des fois, tu vas voir des gens faire beaucoup de publicité et tout ça, mais une fois que le client arrive, achète, il n'entend plus jamais parler de toi. Fait que oui, il y a une question de, il est peut-être venu chercher un deal ou il est peut-être venu une fois pour essayer, mais c'est pas vrai que tu peux pas aller le rechercher par après puis essayer de faire quelque chose pour fidéliser les gens. Là. Il y a plein de stratégies qui existent pour ça. Fait que, des fois, c'est pas évident, surtout dans des canaux traditionnels. Là, si tu fais de la pub à télé ou à radio, c'est peut-être pas évident d'avoir le courriel. Là. Mais il y a des façons quand même d'aller rechercher ces gens-là. Fait
que, puis, je reviens là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres apprentissages, peut-être, que tu as vu avec la multitude de brands avec qui vous travaillez, les brands également que vous possédez, des leçons, des choses que vous ne referez plus dans les 12 prochains mois?
Je dirais courir plusieurs lapins. C'est un adage qui est assez, que tout le monde connaît. Mais, tu sais, je reviens sur, justement, tantôt, je pense que c'est quand tu regardes ton tunnel de vente, tu es capable d'avoir tes KPI aux bonnes places. C'est d'aller cibler le bon que tu veux travailler. Puis c'est facile, deux semaines plus tard, d'avoir un autre problème. C'est facile. Tu sais, ça évolue tellement rapidement, surtout avec la pandémie, le retour à normal, puis tout ça. Fait que tu essaies de régler quelque chose, tu vas régler quelque chose d'autre après. Fait que c'est juste de se focusser sur le bon chantier, le bon KPI, c'est-à-dire je veux le rendre là, qu'est-ce que je fais pour le rendre là. Puis c'est correct si on a les moyens d'en faire quelques chantiers à la fois, mais c'est faut quand même bien manager ça dans ce qu'on va faire. Fait que ça revient un peu avec toute la multitude d'applications et de possibilités qu'on peut faire là-dedans, de cibler quelques chantiers.
Less is more, comme ils disent.
Ouais, there you go.
Vanessa, je me tourne vers toi. Tu as parlé d'optimisation un petit peu plus tôt. Ça a été quoi peut-être? Est-ce que ça faisait partie des apprentissages, des leçons de 2021 que tu as faites? Les coûts que peut-être tu ne voudrais pas répéter en 2022?
Ben vraiment. Moi, dans le fond, qu'est-ce qui est le fun de mon entreprise, c'est que même si on est vraiment spécialisé dans le domaine de maillots de bain. On réussit à en vendre à l'année longue. Même au Québec, on a juste 3 mois par année qui fait chaud. Puis, un des plus gros problèmes que j'avais l'année passée, quand j'étais en pleine croissance, c'était dans mon temps vraiment fort l'été, c'est que j'avais tellement de retours. Puis, c'est pas moi qui gère ça, c'est ma collègue. Puis, je voyais que ça prenait tellement de son temps qui vient en sorte que je me suis mis en équipe avec Novathèse. Je devais trouver une solution, puis je trouvais ça que ça n'avait aucun allure de payer quelqu'un pour que, justement, elle gère à la mitaine, si on veut, du customer service one-on-one.
Ouais.
Puis, j'en connaissais pas assez, mais là, je sais que ça existe. Justement, des applications qui t'aident à alléger ton travail, qui t'aident à, justement, faire des échanges automatiques avec le client. Puis, quand tu regardes des entreprises qui sont un peu plus internationales, ils ont tous ces outils-là. Fait que je pense que la bonne affaire, c'est vraiment de regarder des entreprises qui t'inspirent, qui sont un peu plus multinationales, puis de voir qu'est-ce qu'eux y ont pour que toi t'intègres puis tu deviennes un peu plus professionnel.
Très intéressant tout ça. Je termine avec toi, Jordan. Tu discutes avec beaucoup de boutiques en ligne, j'imagine, parce que aux dernières nouvelles, beaucoup de boutiques en ligne doivent expédier des produits et c'est ce que vous faites avec Omibox. C'était quoi peut-être les erreurs, les moins bons coups que tu as vus sur cette multitude de boutiques en ligne là en 2021?
Bien, c'est sûr que ma réponse revient tout le temps un petit peu à l'expérience client à travers la logistique, parce que c'est le domaine qu'on est dedans. Nous autres, quand on s'assoit avec un e-commerçant qui est intéressé par nos services, on n'arrive pas juste avec une offre de service, avec une grille tarifaire. On arrive vraiment avec une stratégie d'intégration logistique dans leur élément de marketing. Fait que nous autres, on dit, bon, dès le moment que le client va sur votre site, comment est-ce que vous présentez vos offres de livraison? Est-ce que le client peut choisir des plages horaires? Est-ce qu'il peut choisir tel type de service qu'il veut? Comment est-ce que vous montez la tarification de cette offre-là pour que ça soit super clair pour le client quand il place sa commande? Après ça, il y a l'aspect logistique, donc la préparation de la commande, etc., en fonction du service qu'il a choisi. Puis là, c'est à nous d'intervenir puis d'assurer que le client, que le colis se rende du point A au point B selon la promesse qui a été donnée au client. Puis la loyauté envers une marque passe, par le produit, par le prix qu'on paye. Ça, c'est tout ce qui se passe avant l'achat ou durant l'achat. Mais après ça, si l'expérience de livraison fonctionne pas, c'est désastreux pour la marque. Puis même,
tu l'as vu avec des brands qui peut-être ne prennent pas au sérieux la livraison du produit.
Vraiment. Puis c'est pas toujours de prendre le partenaire le moins cher non plus. Il faut vraiment comprendre c'est quoi que ton partenaire logistique peut t'offrir. Puis il faut que tu aies une stratégie oui, de produits, mais il faut aussi que tu aies une stratégie logistique pour que ta stratégie e-commerce soit complète de A à Z.
Parce que le commun des mortels, maintenant, est habitué à Amazon. Hein? Donc, c'est le standard maintenant pour une livraison, pour recevoir le produit en temps, qualité. Ouais. Donc, j'imagine que c'est ce que le client veut, peu importe s'ils achètent sur ton site Shopify ou sur Amazon, il s'attend à la même chose, là.
C'est pas pour rien qu'Amazon contrôle pratiquement 50% des revenus du e-com en Amérique du Nord.
Ouais.
C'est parce qu'ils ont vraiment compris comment offrir exactement au client ce qu'il veut, quand il veut, puis comment il veut selon les instructions là, qu'il a rentrées pour ses notes de livraison. Puis si tu t'appelles pas Amazon, d'un certain sens, tu compétitions Amazon. Fait qu'il faut vraiment que tu aies tes propres stratégies aussi pour être capable de bien répondre aux attentes des consommateurs en ligne. Puis je pense qu'il y a une statistique qui me vient vite de même. Je pense que c'est 83% des clients qui ont une mauvaise expérience de livraison vont pas nécessairement blâmer la compagnie de transport qui a échappé le colis. Ils vont blâmer la marque. Fait que c'est vraiment, vraiment important quand tu te positionnes que tu aies ta stratégie de produit, de tarification, de site web, tout ça, mais que tu aies aussi ta stratégie logistique. C'est un tout, en fait.
Puis bon, ça fait du pouce un petit peu en parlant d'Amazon sur les apprentissages qu'on est capable de voir de l'extérieur. Donc, on le sait, au Québec, souvent, on a quelques années, je dirais pas de retard, mais derrière les États-Unis sur des nouvelles pratiques, sur des nouvelles tendances. Et là, j'aimerais savoir avec vous aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez vu d'ailleurs, de l'extérieur? C'est peut-être même des sociétés canadiennes qui l'ont fait, qui vous ont allumé des flashs, qui vous ont donné des idées pour l'année à venir. Qu'est-ce que vous avez vu de l'extérieur qui vous a inspiré? François, Jérôme, je commence avec toi.
Moi, celle-là, je l'ai spinée un peu plus sur le volet agence, là, si tu permets.
Bien sûr, je pense que
ça peut même revenir des fois à, j'imagine, des commerçants qui ont ce genre d'activité-là aussi à l'interne. Nous, ce qui a été un très gros changement, naturellement, c'est le travail à distance. Là, les gens qui ont été obligés d'être remote durant la pandémie. Puis tout
vous êtes 100% à distance en ce moment?
Nous, on est en mode full flexibility, là, si on peut dire. Là. Fait que, si tu veux venir au bureau 5 jours/semaine, tu peux. Si tu veux être à distance 5 jours/semaine, tu peux. On offre des tribunes au travers de la semaine aux différents départements puis aux différentes équipes de travail pour dire ben ton équipe, elle va être présente ou elle peut être présente le mercredi. Il y a de l'espace pour ça. Fait que si tu veux venir cette semaine, tant qu'à ça, viens le mercredi, tu vas voir tout ton monde. Fait que ça aide à comme baliser tout ça, puis quand même offrir des bonnes tribunes. Mais on est vraiment flexible, puis c'est là aussi où, tu sais, je pense que dans la pandémie, au début, il y avait une euphorie de tout le monde qui était à distance, puis c'était le fun, puis c'était donc bien drôle. Mais après ça, tu sais, c'est sûr qu'il y a des impacts, puis tu essaies tout le temps d'améliorer la communication, pas créer de silos, puis tout ça, puis maintenir, puis même améliorer ta culture d'entreprise. Puis ça, s'il y en a qui sont intéressés par ça, il y a GitLab qui avait fait un... Eux autres, là, sont full remote depuis, je veux pas dire n'importe quoi, là, mais quasiment...
Toujours été distribué, je pense.
Pratiquement tout le temps été remote, puis ils ont un manifeste de ça qui est super documenté depuis longtemps, puis qui montre comment justement entretenir une culture, s'assurer qu'il n'y a pas de silos, que la collaboration se fait bien. Puis on montait ça même à une époque où il n'y avait pas encore tous les outils qui ont été développés pour la pandémie. Fait que je dirais que ça, c'est quelque chose que, tu sais, oui, dans une firme de service comme nous autres, mais tu sais, beaucoup d'employés dans des commerçants, pour des commerçants aussi là, qui sont plus administratifs ou marketing ou peu importe, qui peuvent travailler à distance aussi, puis que pour favoriser vraiment la communication avec les autres, tout, ça peut être intéressant de regarder ça. Là.
Donc, toi, tu as mis ton temps un petit peu plus sur les comportements pour le travail à distance, ce qui est un point qui va intéresser beaucoup d'entreprises. C'est clair, on était précis. Vanessa, tu as parlé de regarder un petit peu ce que les multinationales, les plus gros brands font un peu plus tôt. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans les derniers mois qui t'a allumé peut-être l'esprit sur une activité que tu ne fais pas encore et que tu aimerais faire dans la prochaine année?
C'est une bonne question. Dans le fond, on est en train d'implanter quelques applications en ce moment. Notre nouveau projet, justement, c'est QuickBooks. Ça va vraiment nous aider parce que dans le fond, on est en grosse planification. Puis, tu sais, moi, mon domaine de la mode, c'est, je pense que le plus important, c'est vraiment d'être à l'avance. Planifier des collections à l'avance pour que après ça, on puisse faire du marketing derrière, pour qu'on puisse bien planifier nos affaires. Tu sais, là, mettons, 2 ans, j'étais pas de même. Puis là que je suis de même depuis 2 ans, je vois tellement la croissance, puis je suis comme, oh my God, tu sais, comme là, je comprends pourquoi les grosses entreprises font ça. C'est parce que ils ont le temps de planifier, ils savent qu'est-ce qui s'en vient, sont capables de, s'il y a un problème, ben de le prendre en charge puis de faire quelque chose avec le problème. Tu sais, si t'es dernière minute, t'auras pas le temps de régler le problème, tu vas peut-être pas avoir ta collection à temps, puis ben c'est ça. Fait que
c'est une question budgétaire, là.
QuickBooks, ça va pas mal nous aider avec ça. On, tu sais, cash flow aussi, ça nous importe dans notre business. On a plusieurs collections qui s'en viennent, puis ben l'inventaire prend un gros espace. Fait que QuickBooks va pouvoir nous aider à voir c'est quoi notre budget. On veut aller où dans la prochaine année? Comment qu'on va se rendre là? Est-ce qu'on a besoin d'investir? Sur quoi? Fait que je pense que ça, c'est notre plus gros projet en ce moment pour vouloir expand international.
Ben, c'est une très bonne chose parce que « if you fail to plan, you plan to fail ». Donc, c'est toujours important la planification. Jordan, je termine avec toi ici. C'est quoi que tu as pu apercevoir peut-être dans le domaine de la livraison, de l'expédition qui se fait ailleurs là présentement, peut-être même avec Amazon, que tranquillement, tu es capable peut-être d'intégrer dans ton entreprise pour améliorer le tout? Comment ça se déroule?
Une sorte, on est des pionniers dans notre entreprise. Fait que tout ce qu'Amazon fait aujourd'hui, on le faisait il y a 5 ans.
Ouais, c'est ça. Alors,
mais ce que je peux dire, c'est sûr que, bon, si on regarde un petit peu au Québec, voire au Canada, avec la pandémie, il y a eu un énorme virage numérique. Fait qu'il y avait plein de gens qui misaient depuis longtemps sur une stratégie bricks and mortar pour attirer de la clientèle chez eux. Puis là, du jour au lendemain, il fallait qu'ils se réinventent. Fait qu'il y a eu une espèce de ruée vers le en ligne, la vente en ligne. Ce que je vois là, c'est des gens qui commencent à élaborer des stratégies mixtes. Tu sais, on entend des fois le magasin physique, c'est une chose du passé. Je pense pas. Je parle avec des grandes marques, puis ce qu'ils commencent à me dire, c'est l'expérience client au complet.
Complet, bien
qui
sûr.
Qui commence en ligne, qui va jusqu'à dans le magasin, puis qu'après ça, qui retourne en ligne. Fait que moi, c'est ça que je vois, puis je pense que c'est un peu là que l'avenir s'en va.
Bien sûr.
Vraiment une stratégie d'expérience client complète qui regroupe le magasin en présentiel, si on veut, puis aussi la vente en ligne. C'est comme une espèce de stratégie complète, mais sauf que l'astérix que j'ajouterais, c'est que les magasins en ligne, c'est pas le magasin en ligne traditionnel. Peut-être même des fois, l'inventaire est même pas sur place. C'est comme plus une façon de voir les produits. Ouais. Les produits sont ailleurs puis sont livrés dans l'après-midi par un transporteur. En tout cas, mais la stratégie, c'est physique, puis en ligne, puis ça vient ensemble pour une expérience client complète.
Bien, on en parlait d'ailleurs ce matin avec Geneviève Brousseau-Provencher et Myriam Belzile-Maguire, où l'idée de la discussion était comment notre boutique en ligne est capable d'aider nos canaux de distribution physiques. Donc, Myriam, elle a des boutiques physiques et Geneviève a des points de vente. Et elles le disent, autant que c'était un petit peu une croissance quasiment artificielle, ce qui se déroulait en ligne pendant la pandémie, autant que maintenant, on se rend compte que, avec tous les coûts publicitaires qui montent, avoir une présence physique devient quasiment une nouvelle approche excessivement importante pour faire de l'acquisition de clientèle. Donc, ça revient à ce que tu dis, c'est multicanal en 2022 et ça va continuer à l'être. Ce n'est pas la fin des magasins.
Mais si on prend Amazon, ils sont en train d'ouvrir des magasins physiques.
Bien sûr. Puis habituellement, ils ne se trompent pas trop.
C'est ça, exact.
Donc, je termine un petit peu l'entretien. On est quand même au milieu de la journée e-commerce jusqu'à maintenant. Est-ce que vous avez eu la chance de voir de certaines conférences ce matin, François Jérôme?
Moi, j'ai couru un peu partout. Hein. Fait que j'en ai vu, mais à date, c'est super intéressant. Puis c'est le fun parce que cette année, c'est une édition qui a énormément de sujets. Là. Puis il y a tellement eu d'enjeux dans la pandémie. Fait que ce soit logistique, que ce soit marketing, peu importe. Là, t'sais, y en a pour vraiment tous les goûts, tous les enjeux aussi. Là. J'imagine les gens arrivent ici avec certaines attentes. Ils ont leurs propres enjeux, leurs propres défis, propres opportunités. Fait que je pense qu'il y a une track pour pas mal de goûts là-dedans. Là.
Puis y a-tu quelque chose de spécifique que toi, tu venais chercher aujourd'hui? Parce que t'en vois des enjeux, tu vois beaucoup de cas. Est-ce qu'il y a une information spécifique, une conférence spécifique qui t'intéresse particulièrement aujourd'hui?
Ben, il y en a plusieurs. C'est sûr que pour bien répondre à ta question, j'en ai pensé à une quand même, là, qui est elle à 15h, opération logistique, clé d'une expérience client réussie. Merci. Jordan parle beaucoup. Hein. Parce que ben, la logistique aussi, c'est une corde qu'on a ajoutée à notre arc dans les dernières années, là, puis qu'on a vu que c'était quand même un enjeu qui était pas très bien desservi au Québec. Je veux dire, dans mon domaine d'affaires, de firmes spécialisées là-dedans. Donc, c'est quelque chose que j'ai hâte d'aller voir puis de regarder un petit peu, tout le temps pousser un petit peu plus loin. Mmh. Fait que, ouais, ben, j'ai hâte.
Donc, logistique de ton côté. Vanessa, toi, qu'est-ce qui a capté un petit peu plus ton attention dans la programmation aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'intéresse?
Je pense un peu de tout. J'adore apprendre puis j'ai vraiment une vision claire de où est-ce que je m'en vais. Fait que c'est sûr que si je suis capable de rencontrer du monde qui peuvent m'aider ou m'apprendre quelque chose ou que je fasse un partnership avec quelqu'un, ben c'est sûr que moi, je suis partante. J'ai aussi un panel à 3h avec trois autres entreprises qui sont pas mal dans le même domaine que moi. Fait que c'est tout le temps intéressant de voir leur parcours puis leur vision aussi. Fait que je pense que c'est une belle journée pour faire des belles rencontres.
Fantastique. Jordan, je termine avec toi. Qu'est-ce que tu viens chercher comme info aujourd'hui?
Je commencerai par dire que juste le fait d'être en présentiel, ça fait tellement du bien.
Ouais.
On s'ennuyait tellement de ça. Là.
Ouais.
Mais comme vous avez dit, il y a vraiment des sujets super intéressants, des panélistes super intéressants pour tous les goûts. Autant du marketing, du SEO, des stratégies qui ont marché, qui ont moins bien marché. Ben c'est sûr, je vais dire que la conférence à 15 heures, j'ai hâte de la voir parce que je l'anime, là, mais... Il y a du contenu vraiment super intéressant toute la journée, là, vraiment.
Ben oui, effectivement, tu l'as mentionné. Je pense que la dernière édition, c'était pas en présentiel parce que c'était pas mal l'année dernière en pleine 12e vague. Là.
Ouais, c'est
donc,
ça.
On est content cette année d'avoir des gens qui sont en présentiel. Vanessa Minillo, François-Jérôme Gosselin et Jordan Archinoff, merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous juste avant l'heure du midi. Je vous souhaite une bonne fin de journée de conférence. Et ça a été très enrichissant, vos échanges avec moi aujourd'hui. Je vous en remercie.
Merci.
Salut Antoine.